11h et on retrouve François pour une émission exceptionnelle sur les correspondances de Manosque.
Oui,
François.
Bonjour Johan, et comme tous les ans, pendant les correspondances, c'est un grand rendez-vous que nous vous proposons en direct tous les jours à 11h. Et parmi nos invités aujourd'hui, le directeur du festival, Olivier Chaudançon, à quelques heures de son inauguration, et puis sont également présents et en nombre les élèves de l'École internationale de Manosque et leurs professeurs Anne Hort et Séverine Gaspari, et qui nous promettent donc une émission particulière puisqu'elle est polyglotte. Et enfin, nous entendrons aussi Brigitte Fontaine qui sera sur scène ce soir au Théâtre Jean Le Bleu. C'est presque une tradition. Première des correspondances, c'est toujours le directeur des correspondances qu'on a grand plaisir à accueillir. Bonjour Olivier Chaudançon.
Bonjour.
Avec toujours l'opportunité de parler avec vous de cette belle manifestation qui va se dérouler pendant 4 jours, 5 jours à Manosque et qui sera inaugurée tout à l'heure à 17h sur la place de l'hôtel de ville de Manosque. Les derniers préparatifs, ça se présente bien ?
Ça se présente bien, sachant qu'en réalité les choses ont commencé, puisque j'ai circulé un petit peu dans Manosque, que j'ai vu que les écritoires étaient en place et en fonctionnement, que la lecture relais sur l'Iliade a démarré tout à l'heure. Donc voilà, inauguration officielle à 17h, mais en réalité les choses ont commencé.
Avec deux temps forts aujourd'hui après l'inauguration officielle, où tout le monde sera présent pour dire son attachement aux correspondances, et je sais que vous êtes sensible à l'attachement de la région notamment, du département, de la communauté de communes et de l'État. Il y aura une rencontre littéraire, une première très belle rencontre littéraire qui s'affiche avec Kim Thuy, interviewé par Pascal Jourdana sur la place de l'Hôtel de Ville.
Oui, en effet, c'est une ouverture aussi symbolique parce que Kim Thuy vit à Montréal. Alors elle est d'origine vietnamienne, mais elle vit à Montréal depuis longtemps. Et nous avons organisé sa venue en lien avec les correspondances d'Eastman au Québec, ce festival que nous avons contribué à faire naître voilà 6 ans et qui est un peu notre homologue de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors c'est intéressant que ce soit Kim Thuy qui ouvre les correspondances parce que nos amis de l'École internationale ont travaillé sur son ouvrage Rue, le premier livre qu'elle sort et qui est assez percutant, assez intéressant. Vous allez pouvoir en juger avec les extraits qui vont être lus tout à l'heure par les élèves de l'École internationale. Quel regard vous portez-vous, Olivier, sur l'écriture particulière de Kim Thuy ?
D'abord, rappelez que c'est un livre de souvenirs, c'est un récit. Kim Thuy revisite sa vie, notamment sa fuite du Vietnam. Il est construit par courts chapitres, c'est donc une sorte de voyage dans sa mémoire, mais comme la mémoire de tout le monde, elle revient par flash, elle revient par fragments, et donc c'est un texte fragmentaire qui pour autant donne une belle unité à la sortie, mais voilà, il y a des réminiscences, et elle nous raconte ce parcours, ce changement de vie dramatique à l'origine, pour des raisons historiques et politiques, et alors elle nous fait revivre tout ça. Alors c'est une histoire très personnelle, et en même temps ça touche à l'universel sur plein de choses.
Vous l'avez dit, c'est un parcours dramatique, voire très douloureux aussi, puisqu'elle en a souffert dans sa chair, des questions liées au Vietnam. Et puis, il y a ce message d'espoir, puisqu'elle va être adoptée quasiment au Québec, et donc de dire, mais on est reçu dans un pays, le pays du froid, en pleine neige, elle débarque dans ce pays magnifique, avec des gens qui l'accueillent. Et ça, c'est important. C'est un parcours d'intégration aussi qui est assez remarquable. Je suis très curieux, vous vous en doutez, Olivier, comme beaucoup à Manosque, d'entendre Kim Thuy tout à l'heure sur la place de l'Hôtel de Ville. Ce sera à 18h, juste après l'inauguration officielle des correspondances. Elle sera interviewée par notre ami Pascal Jourdana sur des sièges qui ont été refaits par Jean Lautré. C'est bien ça ?
Ça fait partie des créations plastiques de cette année. En plus des écritoires, Jean Lautré a eu une idée qui était de faire des sièges livres Donc on va les découvrir tout à l'heure.
Je ne les ai pas encore vus, donc on va voir ça.
Personne ne les a vus. On va voir ça. J'ai vu quelques photos sortant de son atelier, mais ils arrivent tout à l'heure.
J'en suis très curieux et presque gourmand d'attendre ça avec impatience. Et puis ce soir, Olivier, une grande dame de la chanson française, pour ne pas dire une grande dame tout court, parce que c'est vraiment un ovni particulier dans la chanson française, et ce depuis pratiquement 40 ans, c'est Brigitte Fontaine qui va être là au théâtre Jean Lebleu à Manosque. Pourquoi ce choix, Brigitte Fontaine ?
Bien, ceux qui la connaissent comme chanteuse savent déjà qu'elle a une écriture très singulière, très affûtée, avec des fulgurances. Enfin, je trouve que c'est une des plus belles écritures de la chanson. Mais pour le reste, on avait envie de montrer une autre facette de Brigitte Fontaine, qui est Brigitte Fontaine, l'écrivaine, si j'ose dire, puisqu'elle a publié beaucoup de livres, qui sont des romans, qui sont des récits, des nouvelles, des pensées, des fragments. Voilà. Donc on lui a proposé d'imaginer quelque chose de particulier pour Manosque, qui était fondé sur une lecture d'extraits de ces textes qu'elle a publié, donc la plupart chez Flammarion, aussi aux Belles Lettres. Et puis, pour montrer qu'il y avait une unité dans tout ça, c'est l'écriture de Brigitte Fontaine, quelle que soit la forme. Évidemment, ces lectures vont être rythmées par quelques-unes de ses chansons. Voilà, donc c'est explorer la parole et l'écriture de Brigitte Fontaine sous toutes ses formes.
Et l'opportunité de voir son alter ego à la guitare, c'est Areski qui sera là et qui la soutient de main de maître depuis déjà quelques décennies. Brigitte Fontaine, c'est également un personnage particulier, c'est une sculpture étonnante dans le paysage audiovisuel français. C'est la reine des kékés, l'impératrice des azous, c'est quelqu'un qui décoiffe normalement, hein, c'est le cas de le dire pour Brigitte Fontaine.
Elle a une image assez fantasque, mais je crois que elle vit dans son imaginaire artistique, et c'est tellement fort que c'est toute sa vie. Alors, pour l'avoir un petit peu côtoyée, je peux vous dire que l'image qu'on en a dans les médias, c'est pas une posture, c'est vraiment quelqu'un qui a cette vie très singulière, qui voit des choses que nous ne voyons pas, qui a une sensibilité exacerbée, et qui donc a ses paroles ou ses fulgurances qui sont parfois sidérantes. Donc voilà, c'est une artiste jusqu'au bout des ongles. C'est un peu la même chose qu'en écriture. Elle est capable d'aller vers toutes les formes, la chanson, les pensées, le roman, etc. Voilà, donc c'est une belle synthèse, finalement, ce qu'elle va nous proposer ce soir avec cette lecture musicale, et en effet avec Areski, son compagnon, et puis également avec un très beau musicien qui est Yann Péchin, guitariste qui a été pendant très longtemps le guitariste de Bachung.
On va rappeler qu'au départ, également, Areski et Fontaine ont aidé un petit jeune qui s'appelait Jacques Higelin, qui a fait son chemin depuis et qui est venu d'ailleurs aux correspondances ici à Manosque. Et Jacques Higelin qui est qui a beaucoup de remerciements et de gratitude envers Brigitte Fontaine. Il faut le savoir aussi. Il y a eu des moments, elle a traversé des moments de doute terribles, et Jacques Higelin était là pour la relever et pour l'aider. Et ça, je pense qu'elle en est consciente et reconnaissante pour ça. C'est donc ce soir sur la scène du théâtre Jean Lebleu. Il y a encore quelques places, Olivier ?
Une poignée qui seront à vendre à l'entrée du théâtre. On ajuste, et dès qu'on voit qu'un fauteuil est libre, on remet une place en vente. Voilà, donc il y a encore quelques petites chances d'en avoir. Il vaut mieux arriver plutôt vers 20h, 20h30. Enfin, je ne veux pas faire patienter trop les gens, mais il n'y en aura pas beaucoup puisque c'est pratiquement complet.
Oui, et puis un peu comme tous les concerts littéraires qui vont se dérouler à Jean Lebleu, je pense à Jeanne Chéral, je pense à Agnès Jaoui par exemple, les lectures qui sont attendues, il faut prendre vos places à l'avance, on ne le dit jamais assez à chaque année, et en même temps il y a toujours une petite opportunité au dernier moment avec des invités qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas la chance qu'ils ont eu d'avoir une invitation pour applaudir Hippolyte Girardot ou Jacques Bonafé, et donc c'est une opportunité pour des personnes qui sont là au bon moment de participer à ce spectacle. Olivier, vous restez avec nous encore quelques minutes. J'ai le grand plaisir d'accueillir deux enseignantes de l'École internationale de Manosque. Il s'agit de Séverine Gaspari. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Et puis également Anne Hort. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes toutes deux professeurs à l'École internationale de Manosque. Je vais présenter brièvement l'École internationale de Manosque. Il faut savoir qu'il y a un dossier sur l'énergie mondiale qui s'appelle ITER, et que l'un des volets de ce dossier énergique, ITER est installé à Cadarache, c'était justement la création d'une école internationale pour accueillir les enfants, notamment des personnels qui vont travailler pendant une trentaine d'années sur le site de Cadarache. D'où la naissance d'une école internationale, autrement dit des élèves de la maternelle jusqu'à la terminale, venue d'une vingtaine de nations. À l'heure actuelle, je crois que c'est à peu près le nombre de personnes dont m'a informé, de nationalités différentes, dont m'a informé Jean-Paul Clément, votre directeur, avec donc des gens de la communauté européenne, mais également des Américains, des Chinois, des Russes, des Japonais, des Coréens, enfin bref, c'est une véritable tour de Babel. Et vous avez travaillé, Anne, avec vos élèves, sur un personnage aussi qui est polymorphe et polyglotte, c'est Kim Thuy, dont on parlait à l'instant avec Olivier. Pourquoi avez-vous choisi ce choix? Je dis ça avant qu'on entende vos élèves lire des textes de Kim Thuy.
Eh bien, à vrai dire, c'est pas moi qui ai choisi, c'est plutôt Guillemette Clépal de l'équipe organisatrice du festival qui m'a suggéré ce livre et qui me l'a donné à lire au début de l'été. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai pensé qu'effectivement ça pouvait convenir à des adolescents, à la fois par le sujet qui est évoqué et par la forme également que vous avez décrite tout à l'heure, la forme fragmentaire. Et donc voilà, j'ai procédé de mon propre chef à un découpage de cet ouvrage et d'une quinzaine d'extraits, eh bien, nous sommes passés à un travail de lecture puisque l'école internationale au fond s'engage dans le festival pour la première fois cette année dans trois activités, dans trois directions différentes. Une lecture publique demain à 13h30 place de l'hôtel d'Herbès. Donc il y aura un groupe d'une quinzaine d'élèves qui, dans un certain nombre de langues assez peu représentées en général à Manosque, comme le russe, le coréen, le chinois,
et
le néerlandais.
Ils vont lire dans leur langue d'origine. Donc.
Alors ils vont lire en français, ils vont aussi lire dans leur langue d'origine.
Très bien.
Dans une espèce de ce que nous avons cherché à faire, c'est-à-dire une espèce de polyphonie, polyglotte. Et... Donc ça, c'est une des directions où l'école s'est engagée. Il y a aujourd'hui cette participation à votre émission, et je vous en remercie. Et puis la troisième direction, eh bien, c'est un tournage, le tournage d'un film. Le résultat, ce sera un petit film documentaire d'une quinzaine de minutes et une équipe d'une dizaine d'élèves donc, sera sur le terrain demain, toute la journée. Et parcourra les rues de Manosque.
Peut-être l'opportunité de rencontrer Kim Thuy.
Je pense, oui, il y a un interview qui est prévu justement après cette lecture publique, à laquelle nous espérons qu'elle pourra assister.
Mais je l'espère. Vous savez, les écrivains, quand c'est pas Olivier qui va me dire le contraire, quand ils sont à Manosque, ils sont très disponibles parce que il y a une ambiance particulière que vous avez su créer, Olivier, avec votre équipe, et qui fait que Yannick Haenel, il est comme l'année dernière, par exemple, il est tout à fait à corte et en même temps on peut parler avec lui, dialoguer, sauf si on s'appelle Claude Lanzmann, peut-être, je sais pas. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont dans une situation très favorable à ce genre de choses et je souhaite que ça se passe bien pour vos élèves. Lorsque vous avez proposé ce roman de Kim Thuy, cet ouvrage plutôt qu'un roman, qui est quand même son histoire de bot people et puis une histoire assez dure sur sa famille, sur ce qu'elle a vécu, qui est assez difficile, comment ont réagi vos élèves?
En fait, il a fallu présenter la situation géopolitique qu'ils ne connaissent pas, puisque c'est une histoire qui, à ma génération, parle, mais pas à la leur. Mais je pense qu'il, une fois ce texte mis dans son contexte, c'est un texte qui les a intéressés, certainement. Mais vous pourrez leur poser la question personnellement.
On va la leur poser, bien sûr.
Oui, qui parle par exemple de déracinement, ce qui peut, en tout cas pour la partie de nos élèves qui n'est pas française, puisque nous avons aussi quand même des élèves du bassin de Manosque, hein, nous n'avons pas que des élèves étrangers. Mais l'expérience du déracinement, du déménagement, de cette espèce de transplantation dans un pays nouveau et dans des usages nouveaux, et dans une langue évidemment nouvelle, c'est quelque chose que Kim Thuy a vécu, et certains de nos élèves aussi, plus ou moins facilement.
Le fait également que ce soit les yeux d'une petite fille qui explique ce qu'elle a vécu, ça aussi, c'est quelque chose qui a dû leur parler particulièrement.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, demain, lors de la lecture publique, nous aurons des petits élèves qui liront, c'est-à-dire des élèves de la section européenne de notre école. C'est-à-dire des élèves qui reçoivent un enseignement qui n'est pas directement donné en français, puisque le fonctionnement de notre école est double, en fait, si vous voulez. Il y a la section internationale et puis il y a la section européenne. Donc nous aurons des enfants de 10, 11 ans qui liront des extraits du texte de Kim Thuy, aussi bien que des grands adolescents comme ceux qui sont présents aujourd'hui dans le studio.
Séverine Gaspari, comment ça se passe le quotidien d'un prof de lettres français à l'école internationale? Comment ça se passe? En face de vous, vous avez des Anglais, des Russes, des Français, des Allemands, des Chinois. Ça doit être assez difficile quand même.
Alors effectivement, mais comme le disait Anne, l'école propose deux cursus différents. Donc les élèves qui ne parlent absolument pas français et qui ne sont pas prêts à se mettre dans la situation d'apprentissage du français pour pouvoir suivre un enseignement en français vont dans ce qu'on appelle la section européenne. Moi, je suis enseignante. Alors, j'ai presque tous les élèves, hein, puisqu'il n'y a qu'une classe par niveau. Je suis enseignante dans ce qu'on appelle la section internationale. Et dans cette section internationale, nous accueillons les élèves qui sont prêts à suivre une partie de leur enseignement en français et l'autre partie de leur enseignement dans ce qu'on appelle une langue de section. L'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le chinois, le russe, qui sont les langues représentées à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai mentionné le japonais?
Non, vous l'aviez oublié.
Voilà.
Et elle est importante puisque le patron d'ITER international est un japonais.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est cette double répartition de l'enseignement dans la langue française et dans la langue de section, elle commence dès la maternelle. Et nous avons des enfants à la maternelle qui vont faire 2 jours par semaine avec un instituteur français et puis 2 jours par semaine avec un instituteur de leur langue de section. Il y a donc comme cela un brassage, puisque dans les cours, par exemple, moi je suis enseignante de français, lorsque j'ai cours, j'ai toute la classe de 4e, toute la classe de 3e, toute la classe de 5e, mais lorsque mes élèves partent faire de la littérature, puisqu'ils font de la littérature française avec moi, mais ceux qui sont en section d'italien vont faire de la littérature avec leur prof de littérature italienne. Pendant ce temps, leurs camarades sont avec leurs profs de littérature allemande, de littérature anglaise, de littérature russe, de littérature japonaise. Et ils se retrouvent dans le cours d'histoire. Donc ces petits groupes vont se retrouver dans les cours, par exemple histoire-géographie, et dispensés dans la langue de section. Et donc nous avons comme ça un fonctionnement un peu particulier, puisque nos élèves sont ensemble pour un certain nombre de cours, mais se retrouvent par petits groupes, voire parfois même dans les plus petites sections, mélangées avec d'autres niveaux, dans leur langue de section. Et il faut aussi imaginer que le collège et le lycée sont dans les mêmes bâtiments. Donc nos élèves de terminale côtoient les élèves de 6e, tout à fait. Et l'école primaire est juste à côté et l'école maternelle est au bout de l'allée. Donc on a vraiment, à la sortie des classes, c'est assez rigolo, puisque vous voyez les petits qui rentrent en petite section de maternelle et puis les grands de terminale qui se préparent à passer le bac, et tout le monde est réuni dans un même environnement. Donc c'est pas seulement un brassage culturel, puisqu'effectivement en classe, nous avons des gens qui non seulement... Il faut imaginer cela aussi. Non seulement nous avons des élèves qui ont des nationalités différentes, mais ils ont chacun très souvent eu l'occasion de vivre, de par la profession de leurs parents, dans des pays étrangers, avant d'arriver chez nous en France. Donc leur expérience est parfois très étonnante. Moi, j'ai une de mes élèves qui a vécu une partie de sa vie en Nouvelle-Zélande et puis en Afrique du Sud. Donc, et elle arrive ensuite en France. Donc elle arrive chargée à la fois de son patrimoine culturel parental, elle est américaine, mais elle est aussi chargée de toutes les expériences qu'elle a accumulées dans les autres pays où elle a vécu.
Et c'est positif, ça, pour les profils futurs, je suppose, des élèves. Vous avez une mission délicate, toutes les deux, c'est de leur faire comprendre, à des élèves d'origine étrangère, j'entends, leur faire comprendre et leur faire connaître un petit peu la culture française et les lettres françaises. Comment ça se passe? Parce que vous travaillez sur des textes classiques, vous avez des programmes à respecter?
Oui, et les programmes dans la section internationale, en français en tout cas, sont strictement français, c'est-à-dire que nous préparons nos élèves de 3e au brevet des collèges et nos élèves de 1e aux épreuves du bac français.
Et ce sont des bons élèves, de manière générale?
Écoutez, leur capacité d'adaptation au système est étonnante, oui. Ça, je dois dire, c'est assez remarquable de... Par exemple, d'avoir parmi ses élèves un Russe qui est arrivé il y a 3 ans et qui est à présent parfaitement bilingue, ou une Chinoise qui ne parlait pas un mot de français en arrivant il y a 3 ans aussi, et qui est présente ici.
On va l'entendre
et
tout
voilà,
à l'heure.
Et qui est, je le dis, au risque de faire... de la faire rougir dans sa modestie naturelle, une des meilleures élèves de ma classe de première actuellement.
Très bien, on va l'entendre tout à l'heure. Oui.
Alors, il faut savoir qu'en français, c'est un peu particulier. Nous sommes tenus de suivre les programmes de l'éducation nationale française. Évidemment, nous adaptons un peu nos enseignements. Et avec les élèves qui sont les nôtres, puisque notre métier, ce n'est pas seulement d'enseigner aux élèves comment écrire et comment lire, mais aussi comment parler. Donc, toute la partie activité orale dans la classe est passionnante. Parce que les élèves ont des choses à dire que peut-être dans des établissements plus traditionnels, ils n'auraient pas à communiquer.
Il y a des parcours de vie qui sont forcément plus originaux,
oui, et puis
que,
les curiosités,
que dans un collège classique.
Ils n'écoutent pas les mêmes chanteurs, ils ne lisent pas les mêmes livres. Il faut bien, évidemment, hein, quand ils lisent, ils ne vont pas spontanément lire en français. Ils vont lire dans leur langue, la langue qu'ils considèrent. Et d'ailleurs, parfois la question se pose, quelle langue considèrent-ils comme leur langue maternelle, puisqu'on l'appelle ainsi, mais parfois c'est la langue du père, donc ça c'est intéressant. Mais nos collègues dans les autres matières sont tenus de prendre en compte les programmes des différents pays dont nous accueillons les ressortissants, donc leur travail est délicat, hein, cela nous est épargné. Et en plus nous avons, enfin dans une certaine mesure, et nous avons deux collègues qui sont des collègues spécialisés en ce qu'on appelle le FLE, le français langue étrangère. Alors Anne et moi, nous avons toutes les deux une expérience de français langue étrangère. C'est aussi pour cela que nous avons été recrutées à l'école.
Vous avez travaillé à l'étranger également,
oui,
toutes les
oui,
deux.
Oui, toutes les deux. Et moi, j'ai même, par exemple, enseigné dans la langue anglaise à plusieurs reprises et dans plusieurs pays. Mais nos collègues de français langue étrangère sont là pour prendre en charge des élèves comme cette élève chinoise. J'ai dans ma classe dans ma classe de 5e un élève japonais qui pendant 3 ans a été suivi par ma collègue de français langue étrangère. Et donc ces élèves-là ont un soutien particulier, personnalisé, qui leur permet d'acquérir les bases de français qui permettent ensuite leur intégration dans le système d'enseignement en langue française. Ils ne sont pas parachutés dans nos cours sans parler un mot de français.
Mais le degré d'exigence est strictement le même que dans un établissement national ordinaire, si je puis dire.
On va pouvoir juger de votre travail tout à l'heure en les écoutant justement et puis en leur posant des questions sur les textes qu'ils vont lire. Je suis doublement content aujourd'hui parce que tout simplement on a là deux des originalités de ce territoire spécifique qu'est Manosque. Cette école internationale, vous l'avez dit, vous l'avez fort bien décrite, qui est une aventure humaine également importante et pédagogique. Et puis l'aventure culturelle des correspondances de Manosque. Olivier, quel regard vous portez, vous, correspondance, sur l'avenue et puis sur l'implication là, que je sens monter de l'école internationale vers les correspondances?
Oh, tout simplement, je me dis que c'est une chance pour Manosque et pour les correspondances, parce que c'est une ouverture sur le monde et puis ça correspond aussi à plein de choses qu'on a envie d'apporter avec les correspondances, c'est-à-dire développer un goût de la découverte, un esprit de curiosité. Donc ça va exactement dans le sens de ce qu'on essaye de mettre en avant en accueillant chaque année des auteurs qui sont très différents les uns des autres, même si majoritairement français. Ce sont des auteurs qui finalement, les bons auteurs, c'est ceux qui ont un regard sur le monde. Et voilà, donc ça coïncide parfaitement. Et puis, le hasard fait que cette année, on a un petit peu plus d'auteurs étrangers qui sont invités. Donc ça, on est en phase de ce point de vue-là. Et puis pour finir, on a décidé de faire notre rencontre professionnelle. On fait chaque année une rencontre professionnelle. Cette année, sur la traduction avec le Collège des traducteurs d'Arles. On se pose la question justement du rôle du traducteur, de son statut qui n'est pas simplement technique, mais c'est aussi un créateur ou un recréateur de textes. Voilà, donc tout ça est très bon pour nous.
Et puis il y a aussi une vedette qui s'appelle La Langue Française. On l'a senti avec Kim Thuy et puis on va l'entendre dans la deuxième partie de cette émission. Par exemple, je vois aussi que Jacques Bonafé va lire des textes de Sur la route de Jacques Kerouac. Il a longtemps hésité avant d'écrire en français plutôt qu'en anglais, Kerouac. Il aurait dû d'ailleurs peut-être écrire en français, je ne sais pas. Quel est votre avis sur ce roman mythique des années 50 ?
C'est difficile de refaire l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Choisir une langue, on va la lui laisser. Mais c'est vrai que des croisements comme ça, avérés ou virtuels, il y en a plein. Le lendemain, on va s'intéresser à Italo Calvino, immense auteur italien, un texte écrit par Yann Apéry, qui est lui-même franco-américain, dit par Agnès Jaoui et accompagné par des musiciens français et des musiciens italiens. Donc vous voyez, on est
Agnès Jaoui
plein dans ces croisements.
Qui a un pied en Afrique du Nord aussi.
Donc si on commence à faire l'inventaire de tout ça, ça va nous mener très loin.
Oui, eh bien je vous propose de faire une petite pause musicale avec justement quelqu'un aussi qui est très étendu au niveau culturel, plutôt quelques-uns. Il s'agit de Brigitte Fontaine, dont on parlait à l'instant, avec Areski qui l'accompagne, et de manière assez normale, hein, c'est une chanson que vous connaissez bien, Olivier, c'est normal. On voit toute l'énergie et toute la subtilité de Brigitte Fontaine avec la musique magnifique d'Areski et les commentaires, évidemment, d'Areski. Je rappelle qu'ils sont ce soir sur scène au théâtre Jean Le Bleu. On va vous laisser profiter des correspondances et du dernier stress de l'organisation. Olivier, merci encore.
Merci
et on se retrouve
vous.
Tout de suite après avec les élèves de l'école internationale qui vont lire des extraits de Kim Thuy, c'est normal.
C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà.
Ah. La 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 la. La 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 la.
Quoi?
Tu sens pas le boulet?
C'est normal, je t'explique. Il y a une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah oui.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Oui, oui.
La 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 la. La 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 la
est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Oui.
Alors ça s'empare très facilement des matières. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un incendie.
C'est normal.
Oui, oui, oui.
La 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 la.
D'accord.
comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens de la combustion,
quoi?
La destruction de l'immeuble par les flammes.
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu. Et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Quoi?
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal.
Mais.
La, 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 la.
Mais alors.
La, 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 la.
On va tomber.
La, la, la. Mais oui.
Du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre.
La 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 la.
Excuse-moi. Oui, quoi?
Pardon, je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Donc, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différentes composantes. Par exemple, les membres se séparent du tronc.
Oui.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne,
oui,
etc. Donc, dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal.
C'est normal.
Tu comprends?
Brigitte Fontaine avec Areski, c'est normal, ils seront donc tout à l'heure sur la scène du théâtre Jean Le Bleu. Alors j'ai grand plaisir d'accueillir les élèves de l'école internationale, comme promis. Il s'agit d'Anthony, Tania, Xini, Mallory, Alizé, Guillaume et Marielle. Bonjour à tous.
Bonjour.
On va vous entendre lire des extraits chacun de ce texte magnifique de Kim Thuy que vous allez rencontrer en plus dans le cadre des correspondances de Manosque. Et pour commencer, je crois que c'est Tania qui va lire un extrait. Ça s'appelle comment, Tania?
Ben, c'est l'un des premiers extraits. On pourrait l'appeler Naissance. Il est à la page 11 du livre de Kim Thuy. Donc voici. Je suis venue au monde pendant l'offensive du Tet. Au premier jour de la nouvelle année du singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochées devant les maisons explosaient en polyphonie avec le son des mitraillettes. J'ai vu le jour à Ségon, là où les débris des pétards éclatés en mille miettes coloraient le sol de rouge comme des pétales de cerisier, ou comme le sang des 2 millions de soldats déployés, éparpillés dans les villes et les villages d'un Vietnam déchiré en deux. Je suis né à l'ombre de ces cieux ornés de feux d'artifice, décorés de guirlandes lumineuses, traversés de roquettes et de fusées. Ma naissance a eu pour mission de remplacer les vies perdues. Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère.
C'est un très beau texte signé Kim Thuy avec une ambivalence très bizarre sur effectivement les feux d'artifice et puis les roquettes. Et puis il y a autre chose aussi, c'est les coups de mitraillette et les pétards.
Oui,
c'est quelque chose qui t'a parlé, ça, c'est-à-dire ce qui est normalement la fête et puis en fait le drame d'une guerre.
Ben, disons que j'aime beaucoup l'histoire et que nous avons étudié récemment la guerre de Vietnam. Et quand on ouvre ce livre et qu'on tombe sur cet extrait, eh bien, elle n'a pas tout dit, mais presque. Je veux dire, on n'est plus dans l'histoire avec les politiques, tout ça, le nombre de... C'était tout théorique. Là, on voit la réalité, on voit l'autre côté du décor. Alors, elle était petite, très petite à cette époque. Alors, l'image avec les pétales de cerisier ou avec les guirlandes lumineuses, ben, ça peut être l'enfance, ce côté-là, l'enfance au milieu d'un paysage dévasté. Donc comment on peut interpréter autrement des choses aussi affreuses qu'avec des images qui leur sont pour innocentes et familières à tous.
Et toi, tu arrives à imaginer un pays en guerre avec un enfant autour des mitraillettes et des pétards, par exemple?
Comment l'imaginer? Ben, on peut toujours imaginer, on peut toujours avoir des images, mais on ne peut pas l'imaginer au niveau émotionnel. C'est, à moins de l'avoir vécu, ça doit être trop marquant. Ça doit être vraiment... singulier comme expérience.
C'est un des premiers chapitres, disait tout à l'heure Olivier, mais on le sent, hein, c'est vraiment très court, il y a une vingtaine de lignes. C'est un peu l'écriture de Kim Thuy qui est comme ça, et on va poursuivre avec une deuxième lecture. C'est qui doit lire cette fois-ci, maintenant? Alors c'est Guillaume qui va nous lire un extrait. Tu peux le présenter éventuellement, Guillaume?
Donc il s'appelle La Richesse, page 50 du livre. Donc je vais le lire. Mes parents nous rappellent souvent, à mes frères et à moi, qu'ils n'auront pas d'argent à nous laisser en héritage, mais je crois qu'ils nous ont déjà légué la richesse de leur mémoire, qui nous permet de saisir la beauté d'une grappe de glycine, la fragilité d'un mot, la force de l'émerveillement. Plus encore, ils nous ont offert des pieds pour marcher jusqu'à nos rêves, jusqu'à l'infini. C'est peut-être suffisant comme bagage pour continuer notre voyage par nous-mêmes. Sinon, nous encombrerions inutilement notre trajet avec des biens à transporter, à assurer, à entretenir. Un dicton vietnamien dit « Seuls ceux qui ont des cheveux longs ont peur, car personne ne peut tirer les cheveux de celui qui n'en a pas. Alors j'essaie le plus possible de n'acquérir que des choses qui ne dépassent pas les limites de mon corps. »
Très beau texte aussi. Hein ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, je pense qu'il décrit très bien la valeur de la richesse déjà au Vietnam. C'est très difficile pour les enfants d'avoir un héritage de leurs parents. Et donc ça nous permet d'avoir un point de vue par rapport à de la richesse par rapport à celui de la France.
C'est le poids de la famille, hein.
Voilà. Oui.
C'est ça, avec les parents qui nous ont offert des pieds pour marcher jusqu'à nos rêves, jusqu'à l'infini. Ça, c'est merveilleux, c'est de la poésie tout ça. Hein.
Oui.
Ouais. Ça t'a plu de travailler sur Kim Thuy, sur ce type de personnage et d'écriture?
Oui, parce que ça nous permet en fait de comprendre la situation d'un pays en guerre.
Ce que disait Tania tout à l'heure. Hein.
Voilà, que les impressions d'une petite fille comme ça qui est au milieu d'une guerre. Donc c'est pas évident souvent à comprendre, mais voilà, ça nous permet d'avoir un point de vue.
Tu appréhendes de rencontrer Kim Thuy tout à l'heure à Manosque?
Je sais pas si je vais y aller, parce qu'en fait je suis pas dans le groupe.
Aïe aïe aïe, pas de chance, pas de chance. On te racontera alors.
D'accord.
Merci Guillaume. Qui c'est qui prend le relais là, s'il vous plaît?
C'est moi.
C'est Xini maintenant. Pardon. On va dire Xini. Alors tu as une magnifique feuille posée devant toi avec des signes particuliers parce que tu es chinoise, Xini.
Oui, je suis chinoise. Donc je vais la lire en chinois. Cet extrait s'appelle La famille et c'est la page 54 dans le livre. Mon 他在18岁时因为一次偶然的机会而来到了越南，并和当地一位非常美丽的越南姑娘结了婚，成为了八个孩子的父亲。他们当中的四个选择留在越南，而其他的四个则选择回到了中国。那四个留在越南的人，也就是我祖父，先后成为了非常有名的政治家以及科学家，而那四个中国人则成为了在做米生意中发了家。虽然后来我的祖父成为了州长，但是他依旧没有能成功的说服他那四个中国的兄弟姐妹们把他们的孩子送到越南的学校去。在越南的家族没有任何一个人会说四川话，所以整个家族被分成了两半，就像国家那样。南边是那些支持美国人的人，而北边则是那些共产党。
Un très beau texte et vous allez comprendre pourquoi Sini a lu ce texte avec la traduction. C'est qui va lire la traduction? Mallory, vas-y, je t'en prie, prends le micro.
Mon arrière-grand-père maternel était chinois. Il est arrivé au Vietnam par hasard, à l'âge de 18 ans. S'est marié avec une vietnamienne et a eu 8 enfants. Quatre de ses enfants ont choisi d'être vietnamiens, et les quatre autres chinois. Les quatre vietnamiens, dont mon grand-père, sont devenus des politiciens et des scientifiques. Les quatre chinois ont prospéré dans le commerce du riz. Même si mon grand-père est devenu préfet, il n'a pas réussi à convaincre ses quatre frères et sœurs chinois d'envoyer leurs enfants à l'école vietnamienne. Et le clan vietnamien ne parlait pas du tout le sichuanais. La famille était divisée en deux, le pays aussi. Du côté sud, les pro-américains. Du côté nord, les communistes.
Un extrait de rue de Kim Thuy et qui parle de sa famille. Une question que je vais poser à Sini. Les Chinois sont parfois partagés comme ça entre deux nations. Ça peut arriver. Ce qu'explique Kim Thuy, à savoir une partie de sa famille reste en Chine et l'autre s'installe au Vietnam. C'est possible?
Je croyais que c'est possible parce qu'avant, j'ai entendu mon père me parler qu'en Vietnamien, il y a beaucoup de gens qui parlent chinois. Ben, c'est plutôt proche, quoi. Et comme on a... Nous aussi, en Chine, on a des guerres, on va dire des guerres civiles entre le communisme et les autres.
Dans les provinces, oui.
Oui. Et après, je crois que j'aime bien comment elle exprime ses idées de que la famille divisée en deux. Parce que, bon, les Chinois, je ne sais pas comment elles sont, mais si moi, j'ai une partie de mes familles qui sont très loin de moi, ben je sens un peu divisée en deux.
Et puis de se dire de quel côté on va pencher, soit du côté du Vietnam ou du côté de la Chine.
Oui, comme la Chine a aussi participé un peu pendant la guerre de Vietnam, donc je crois que c'est dur pour elle.
Ce texte de Kim Thuy, tu l'as ressenti comment, toi, qui est du sud-est asiatique, en tout cas de l'Asie?
Je sens plus proche de elle que les autres, bien sûr, parce qu'elle vient d'Asie aussi. Et plutôt, en Chine, j'ai déjà étudié un peu la guerre en Chine, et je sens comment ça se sent, parce que c'est Dunbei, et c'est Tongbei, et tu le sens vraiment mal quand ils se battent ensemble. Parce que nous sommes tout le monde dans la même famille. Et pourquoi on se bat? Et c'est terrible ce sentiment quand tu le sens. C'est vraiment terrible.
Et pour nous, c'est difficilement compréhensible puisque la Chine, c'est quasiment un continent avec plus d'un milliard d'habitants. Donc c'est une échelle complètement différente. Et d'autant plus différente par rapport à son voisin, le Vietnam aussi, qui n'a pas du tout la même échelle. Tu as déjà été au Vietnam, non?
Non.
Tu as envie d'y aller?
Oui, bien sûr.
Oui. Et surtout à la lumière, à la lecture de ce texte et de ce parcours de vie particulier de Kim Thuy.
Oui.
Tu vas la rencontrer, Kim Thuy?
Oui, bien sûr.
Parle-lui de ses origines chinoises.
Oui.
Ce sera bien.
Oui.
Merci encore, Sini. Qui prend le relais, s'il vous plaît?
C'est moi.
Alors
Muriel, je suis américain et je lis Le rêve américain, c'est page 86. Mais je lis en anglais. It can be said, once obtained, the American dream never leaves you, like a transplant or a growth. The first time I went out with my high heels, my skirt straight, and my briefcase to a cooking school for disadvantaged children in Hanoi, the young waiter of my table didn't understand why I spoke to him in Vietnamese. I believed at first that he didn't know my southern accent, but at the end of the meal, he candidly told me that I was too big to be Vietnamese. I translated this remark to my patrons, who still laugh about it to this day. I understood much later that he didn't speak of my 45 kilos, but of this American dream which had thickened me, made me bigger. This American dream created the assurance in my voice, the determination in my gestures, the precision in my desires, the speed in my step, and the strength in my regard. This American dream made me believe that I could have anything, that I could ride in a car with a chauffeur, and at the same time measure the weight of the squashes transported on a rusty bicycle by a woman whose eyes are clouded from sweat, that I could dance at the same rhythm as the girls who bar dance to stun the men whose wallets hide American dollars, that I could live in my large expatriate home and accompany the children who walk barefooted to their school, installed directly on the sidewalk at the intersection of two roads. But this young waiter reminded me that I couldn't have everything, that I no longer had the right to call myself Vietnamese, because I had lost their fragility, their uncertainty, their fears. And he had reason to correct me.
Évidemment, quand on entend parler avec un accent américain et parler du Vietnam, on peut avoir quand même un petit pansement au cœur sur ce qui s'est passé au Vietnam dans ces années 60 et 70, des années difficiles. Tu connais, toi, un petit peu l'histoire de la guerre du Vietnam?
Oui, j'ai étudié. Je suis vraiment intéressée. Je pense que c'est une histoire très triste et très difficile avec... des idées. C'est pas seulement le Vietnamese, mais c'est les Chinois, les Russes et les Américains qui voudraient utiliser les Vietnamese pour gagner
une chose contre les autres.
C'est ça, avec une lutte d'influence au niveau mondial assez compliquée. Tu sais qu'il y a un écrivain français qui s'appelle Lionel Salin qui a écrit un livre qui s'appelle Le retour de Jim Lamar, qui est le retour justement d'un vétéran du Vietnam aux États-Unis, et il est programmé dans le cadre des correspondances. Il sera à Manosque ces jours-ci, donc si tu as la possibilité de lire ce livre, c'est assez étonnant. C'est une plongée dans l'Amérique après la guerre du Vietnam avec ce vétéran qui est complètement annihilé, enfin qui est complètement qui n'a plus la possibilité de vivre normalement après ce conflit du Vietnam dans son pays et dans sa région. C'est vraiment le Mississippi en plus, qui est une région un peu dure. Merci encore Marielle de cette lecture. Une autre lecture, c'est possible? Alors Anthony, toi tu es anglais, hein, on va préciser, tu viens de Oxford.
Oui, oui.
En Angleterre, et tu vas nous lire un extrait de Kim Thuy aussi. Il faut aller assez vite, hein, parce qu'on a assez peu de temps.
Je vais lire La Glace, page 89. C'est grâce au J.I. que mon bel-oncle Sis a pu acheter son passage et celui de sa femme, ma tante Sis, et de sa toute petite fille sur le même bateau que nous. Les parents de ce bel-oncle sont devenus très riches grâce à La Glace. Les soldats américains ont acheté des blocs entiers d'un mètre de longueur sur 20 cm d'épaisseur et de largeur pour les mettre sous le lit. Ils avaient besoin de se rafraîchir après avoir sué de peur pendant des semaines dans la jungle vietnamienne. Ils avaient besoin d'être réconfortés par des humains, mais sans sentir la chaleur de leur propre corps ni celle des femmes louées à eux. Ils avaient besoin de retrouver le courant d'air frais de Vermont ou de Montana. Ils avaient besoin de se retrouver dans cette fraîcheur pour cesser un instant de soupçonner qu'une grenade était cachée dans les mains de chaque enfant qui venait toucher les poils de leur bras. Ils avaient besoin de ce froid pour ne pas succomber à toutes ces lèvres pulpeuses qui murmuraient des faux mots d'amour dans les creux de leur oreille afin d'y chasser les cris des camarades au corps mutilé. Ils avaient besoin d'être froids pour quitter les femmes qui portaient leurs enfants sans ne plus jamais le revenir, sans jamais avoir révélé leur nom de famille.
Merci Anthony. Lecture qui doit représenter quelque chose aussi pour toi. C'est difficile de lire à la fois en français, mais en même temps, sur ce passage de vie particulier, la glace, autrement dit, retrouver une vie normale alors qu'on vit dans un pays comme le Vietnam, un pays en guerre.
Oui.
C'est pour ça que tu as choisi ce texte?
J'ai choisi parce que je pense que les images sont très choquantes. Parce que l'image d'un enfant avec une grenade dans les mains, c'est vraiment terrible.
Et ça doit être pourtant la réalité, hein.
C'est
pas de problème.
Quand nous imaginons la guerre, c'est homme contre homme, pas homme contre enfant. Donc c'est...
Et surtout un engin de mort comme une grenade qui peut frapper n'importe où, n'importe qui et en masse. Merci beaucoup Anthony et bravo pour ta lecture. Je sais que ça ne doit pas être facile de lire devant un micro. La suite, quelqu'un va lire?
C'est moi.
Alors, c'est...
Alizé,
s'il te plaît.
Je vais lire « Regardez derrière soi », page 105 du livre. Notre bateau a été totalement détruit par les vagues d'une simple pluie qui est tombée tout de suite après notre débarquement. Nous étions plus de 200 à regarder ce spectacle en silence, les yeux embués par la pluie et la stupeur. Les planches de bois sautillaient l'une après l'autre sur la crête des vagues, comme dans un numéro de natation synchronisée. Je suis certaine que ce spectacle nous a tous rendus croyants pendant un court moment. Tous, sauf un. Il est retourné sur ses pas pour aller chercher les tailles d'or qu'il avait cachées dans le fût d'essence du bateau. Il n'est jamais revenu. Peut-être que les tailles l'ont fait couler. Peut-être qu'ils étaient trop lourds à porter. Ou alors le courant l'a avalé pour le punir d'avoir regardé en arrière. Ou pour nous rappeler qu'il ne faut jamais regretter ce qu'on a laissé derrière soi.
C'est une fable terrible.
Oui, c'est
terrible.
Vrai.
Hein. Et en même temps, tu imagines, toi, la vie des boat people, des gens qui fuient comme ça en bateau
C'est difficile à imaginer. Mais oui, ça doit vraiment être terrible. Ouais.
Et selon toi, il y a une morale à ce texte qu'elle a écrit, Kim Thuy? Il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là, de particulier?
Justement, qu'il ne faut pas regarder derrière soi, qu'il faut éviter de regretter, justement, toujours aller de l'avant.
Et c'est ce qu'ont fait tous les boat people à ce moment-là, c'est-à-dire voilà. Ils ont quitté leur pays, leur famille, leur argent, leur maison, etc. Et ça a été le cas de Kim Thuy. Merci beaucoup, Alizée. Guillaume, on te retrouve pour une lecture, c'est bien ça ? Non, c'est pas ça. Tout le monde a lu, donc, si j'ai bien compris. On va demander à Anne, éventuellement, de revenir en plateau, de faire un petit changement rapide. Vous pouvez envoyer un petit peu de musique, Joanne, pendant qu'on fait ce changement. On se retrouve tout de suite après. En plateau, on retrouve les deux enseignantes de l'école internationale de Manos qui nous ont accompagnés pendant cette émission, Séverine Gaspari et Anne Hort. Vous avez, et évidemment j'ai acquiescé, vous avez insisté pour lire vous aussi un texte, Anne,
oui.
et de dire tiens, on a aussi choisi nous des extraits de ce livre de Kim Thuy. Alors vous savez qu'on pratique l'égalité ici, les élèves comme les professeurs. Si vous voulez bien les lire, on vous écoute, mesdames.
Séverine, peut-être tu commences ?
Je commence, d'accord. Toucher la tête. Donc c'est Anne qui a donné à chacun des extraits qu'elle a choisi un titre. Hein. Ce n'est pas extrait du livre. Il suffit de toucher la tête d'un Vietnamien pour l'insulter. Non seulement lui, mais tout son arbre généalogique. C'est ainsi qu'un timide Vietnamien de 8 ans s'est transformé en tigre furieux quand son coéquipier québécois a frotté le dessus de sa tête pour le féliciter d'avoir attrapé son premier ballon de football. Si une marque d'affection peut parfois être comprise comme une offense, peut-être que le geste d'aimer n'est pas universel. Il doit aussi être traduit d'une langue à l'autre. Il doit être appris. Dans le cas du vietnamien, il est possible de classifier, de quantifier le geste d'aimer par des mots spécifiques. Aimer par goût, tiche. Aimer sans être amoureux, thuong. Aimer amoureusement, yeu. Aimer avec ivresse, mais. Aimer aveuglément, mu quang. Aimer par gratitude, tin gya. Il est donc impossible d'aimer tout court, d'aimer sans sa tête. J'ai de la chance d'avoir appris à savourer le plaisir de lover ma tête dans le creux d'une main. Et mes parents ont la chance de pouvoir capter l'amour de mes enfants quand ces derniers leur donnent des baisers dans les cheveux, spontanément, sans protocole, pendant une session de chatouille au lit. Moi, j'ai touché la tête de mon père une seule fois. Il m'avait ordonné de m'appuyer sur lui pour sauter par-dessus la rampe du bateau.
C'est un moment crucial qui lui a permis de se sauver la vie, probablement, et donc son père lui a permis de toucher sa tête. C'est aussi un geste fort qui a été dit. Mais je croyais que l'amour était universel et pas du tout question de mots particuliers. Et là, Kim Thuy nous brouille un peu les pistes avec sa vie. Et c'est un peu pour ça que vous avez choisi ce texte. Pourquoi vous l'avez choisi ?
Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, effectivement, c'est cette réflexion sur le caractère universel ou non universel de l'amour. Et on s'aperçoit qu'on a l'impression que tout le monde partage le sentiment d'amour, mais les marques d'amour, les manifestations d'amour, elles sont codées culturellement. Mais un père est capable de passer sur la tradition, sur les interdits pour sauver la vie de son enfant. Ça, c'est universel. Je crois.
Et c'est la leçon qu'a tirée Kim Thuy d'ailleurs de ce moment fort.
Je pense que c'est ce que nous propose ce texte-là. L'idée que nous mettons des limites culturelles, mais qu'une certaine forme d'amour peut aller au-delà si on en a besoin. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est cet épisode très rigolo du petit Vietnamien qui se fâche parce qu'on le félicite, parce qu'il ne comprend pas, parce que les codes culturels ne sont pas les mêmes, et que du coup, il se méprend sur la portée du geste que son camarade québécois a à son encontre. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien à l'école.
Oui, vous me disiez par exemple que vous rangez vos élèves deux par deux, garçons et filles, et c'est mal vu par nos amis japonais, c'est ça?
Alors, il y avait une maman japonaise. Alors ça s'est passé au primaire. Hein, les enfants de petite classe de primaire, on les range pour leur faire traverser l'école pour rentrer de la cantine. Et une maman japonaise s'est aperçue que les enfants étaient rangés par deux en se tenant la main, garçons et filles. Et ça ne se fait pas, apparemment, au Japon. Donc bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que les enfants s'adaptent sans aucun problème et très rapidement. À partir du moment où nous sommes clairs et l'école a des règles très claires, ils s'adaptent très vite et ils se plient aux règles que nous leur proposons.
Mais vous devez malgré tout tenir compte quand même de la culture des personnes qui sont en contact avec vous,
oui.
Évidemment. Anne, vous avez choisi un texte aussi. On a 4 minutes, très exactement.
D'accord, eh bien, je vais le lire. C'est un texte que moi j'avais intitulé « La valise ». Ce souvenir explique certainement pourquoi je ne quitte jamais un endroit avec plus d'une valise. J'emporte seulement des livres avec moi. Le reste ne réussit jamais à devenir véritablement mien. Je dors aussi bien dans le lit d'un hôtel, d'une chambre d'amis ou d'un inconnu, que dans mon propre lit. En fait, je suis toujours heureuse de déménager. Ainsi, j'ai l'occasion d'alléger mes biens, de délaisser certains objets, afin que ma mémoire puisse devenir réellement sélective, qu'elle puisse se souvenir uniquement des images qui restent lumineuses derrière les paupières fermées. Je préfère me souvenir de mes chatouillements intérieurs, de mes étourdissements, de mes chavirements, de mes hésitations, de mes changements, de mes manquements. Je les préfère puisque je peux les modeler selon la couleur du temps, alors qu'un objet reste inflexible, figé, encombrant.
C'est un très beau texte aussi sur,
oui, c'est un texte sur
la légèreté de la vie, en fait.
Voilà, ne pas s'encombrer de choses inutiles, et cette légèreté va peut-être avec aussi la liberté.
De garder les vibrations aussi, simplement de la vie qui passe. Mm-hmm. Ce sont presque des principes philosophiques là, qu'elle vient d'édicter.
Ben oui, ça rejoint ce que disait Monsieur Chaudançon tout à l'heure, c'est-à-dire que, bien sûr, ce texte, c'est une histoire individuelle, mais il rejoint d'une certaine manière l'universel. C'est ça qui est intéressant.
Un très beau texte et puis un très beau livre qu'on recommande évidemment à tout le monde, rue Kim Thuy. C'est Kim Thuy qui sera tout à l'heure à 18h sur la place de l'Hôtel de Ville à Manosque pour une lecture commentée avec Pascal Jourdana, qui aura le redoutable privilège d'interviewer Kim Thuy en public, et puis elle sera sur Manosque aussi pendant 2-3 jours. Pour conclure cette émission, mesdames, je vais vous demander votre sentiment sur la lecture de vos élèves et puis l'approche, le travail qui a été réalisé par ceci. Très brièvement, parce qu'on a juste 2 minutes, Anne.
Bien, moi, je pense qu'ils ont fait de leur mieux et je les félicite.
C'est mon avis aussi. Séverine.
Tout à fait d'accord. Moi, j'ai été très touchée par les lectures.
Oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une belle interprétation. Et puis d'entendre Signy, par exemple, parlant chinois et parler de la culture chinoise, c'était une belle chose. Et évidemment, tous les autres élèves autour, avec un côté un petit peu polyglotte, voire cosmopolite. On est tous des habitants de la même terre, de toute façon, il faut pas l'oublier. Merci encore, Anne, d'avoir eu cette excellente idée de faire venir vos élèves ici à la radio. Se fait un plaisir pour moi aussi
Merci de nous avoir accueillis,
de les écouter lire avec autant d'attention et autant d'acuité un livre aussi magnifique que Rue de Kim Thuy. Merci aussi Séverine de votre jugement et de votre appréhension par rapport à, et de votre approche plutôt par rapport à la vie de vos élèves et à ce qu'ils vivent actuellement, qui est un moment fort dans leur vie certainement, dont ils vont se souvenir très longtemps, leur présence à l'école internationale de Manosque. Merci Joanne enfin pour la régie, et on se retrouve demain pour une autre émission avec d'autres invités. Il y aura une interview de Kim Thuy par exemple, mais on aura le plaisir d'accueillir Marie de Petite Planète, que vous devez connaître, mesdames, également Alain Ortega, ainsi que Arthur Dreyfus, qui est un écrivain qui a écrit un premier roman, La synthèse du camphre, magnifique, et François Bonne qui va être en résidence bientôt sur Manosque. Et merci encore et bravo à tous les élèves de l'école internationale qui étaient sur Mistral aujourd'hui. À demain.